Évoquant cette semaine le sacrement de confirmation, nous avons vu qu'il était étroitement lié au baptême, qu'il était pour ainsi dire une suite du baptême. Et il est vrai que nous pouvions poser la question, et je pense que beaucoup d'entre vous se la posent, pourquoi ce sacrement de confirmation est-il vraiment nécessaire? Ne fait-il pas un peu doublon avec le baptême, si l'on a reçu pleinement l'Esprit au baptême, pourquoi encore cette autre démarche? Alors il y a plusieurs pistes pour répondre à cette question. La première, c'est une piste historique. Nous allons essayer de voir très rapidement comment, à travers les siècles, ces rites de l'initiation chrétienne, à savoir le baptême, la confirmation et la communion eucharistique, comment ces rites ont petit à petit évolué. Au point de départ, il semble qu'on ne distinguait pas un sacrement de confirmation, mais que le baptême incluait le don de l'Esprit-Saint par l'imposition des mains faite par un apôtre. Et d'ailleurs, pendant les deux premiers siècles de l'Église, on devenait chrétien après un long temps de formation qu'on appelait le catéchuménat, qui débouchait sur le baptême et la communion au corps du Christ. Mais on ne trouve pas dans les documents qui nous sont parvenus, tout au moins, la mention d'une onction particulière, signe de la venue de l'Esprit. À partir du IIIe siècle, l'initiation chrétienne se faisait dans une grande célébration au cours de la veillée pascale, qui était présidée par l'évêque, avec trois grandes étapes, le baptême, puis une onction d'huile avec imposition des mains de la part de l'évêque, puis enfin l'Eucharistie. L'onction, qui ne prendra d'ailleurs le mot de confirmation qu'à partir du Ve siècle, l'onction était donc un achèvement du rite du baptême, mais en faisait partie intégrante. Qu'est-ce qui va provoquer, j'allais dire, le détachement de ce rite par rapport au baptême? Eh bien, vous allez le voir, c'est une sorte d'adaptation à une situation nouvelle. Dans les premiers siècles, les communautés chrétiennes sont principalement dans des villes. Si dans une ville réside l'évêque, il n'a donc aucune difficulté à connaître, fréquenter et pouvoir célébrer dans les communautés de sa ville. Mais dès les 4e et 5e siècles, les communautés chrétiennes vont s'étendre au-delà des villes. Il y a des communautés qui s'organisent en campagne. L'évêque voit donc son territoire s'agrandir de manière importante. Et il ne peut plus physiquement aller dans toutes les paroisses pour célébrer les baptêmes. Jusqu'au 8e siècle, dans les villes, la manière de célébrer ne change pas. Et donc, l'évêque procède lui-même au rite baptême, onction et eucharistie. Mais dans les campagnes, l'imposition des mains et l'onction, geste qui revient à l'évêque, sont repoussés à un temps ultérieur lors du passage de l'évêque. Car on veut conserver ce rôle de l'évêque dans l'initiation chrétienne, bien montrer qu'il est responsable de la communion entre tous les chrétiens et que c'est à lui d'authentifier l'initiation chrétienne en donnant cette onction d'huile et en imposant les mains. Et l'on voit comment petit à petit, à cause d'une adaptation à une situation nouvelle, à partir du IXe siècle, en ce qui concerne l'Occident, cette onction, donc la confirmation, sera totalement séparé du baptême. En revanche, en Orient, et dès le 5e siècle, une autre manière de faire se met en place. On va répondre autrement au problème. Et c'est le prêtre, et non plus l'évêque, qui, après le baptême, donne immédiatement l'onction, donc la confirmation, et fait communier. Et cela même pour les tout petits bébés. On a ici voulu garder l'unité et le sens des différents rites de l'initiation chrétienne au cours d'un seul et même événement. Et cette façon de faire a toujours cours dans les églises orientales, y compris dans les églises catholiques de rite oriental.
Étienne Dallaire.
Nous avons donc bien saisi que cette séparation de la confirmation par rapport au baptême est avant tout un choix pastoral, un choix d'adaptation de la pratique par rapport à la situation du terrain. En Occident donc, puisqu'on a tenu à ce que l'évêque demeure celui qui donne l'onction et impose les mains, la confirmation était reportée, non pas jusqu'à un certain âge, mais elle était reportée jusqu'au passage d'un évêque dans la paroisse. Il n'y avait pas d'âge pour être confirmé, il fallait seulement être baptisé et attendre la venue d'un évêque. Cela pouvait prendre quelques semaines, voire quelques mois. L'habitude va donc se prendre dans l'Église catholique occidentale, latine, de séparer les trois sacrements de l'initiation chrétienne et de les célébrer les uns indépendamment des autres, tout en respectant, bien sûr, une suite logique. Aux origines, les deux rites du baptême et de la confirmation étaient liés et ils constituaient, mais ils continuent à constituer, la totalité du baptême dans l'Esprit. Si le baptême donne l'Esprit Saint, la confirmation achève ce don, elle est comme l'accomplissement du baptême. Aujourd'hui, les deux sacrements sont séparés par plusieurs années parce que, pastoralement, on a pensé qu'il était bon que le baptisé, et notamment celui qui avait été baptisé enfant, puisse faire une démarche personnelle, exercer un choix libre, comme pour accéder pleinement et librement à l'achèvement de son baptême. Mais en ce qui concerne les adultes qui se préparent au baptême, pour reprendre ce que vivaient les premiers chrétiens, les adultes qui sont baptisés vont recevoir, la plupart du temps, le sacrement de confirmation et la communion au corps du Christ dans la même célébration que leur baptême, très souvent au cours de la vigile pascale. Ainsi, on peut dire que, en ce qui concerne les adultes, eh bien, ils vont recevoir les trois sacrements de l'initiation chrétienne de manière cohérente en une seule fois.